Gilles Baudouin, on aurait voulu que, dans un premier temps, vous présentiez au sens de quel a été votre parcours avant d'entrer à l'ENSIB.
D'accord. En fait, je suis entré sur le tard à l'ENSIB, parce qu'avant d'être conservateur de bibliothèque, j'ai été enseignant dans le secondaire. J'étais professeur de lettres en collège et j'ai enseigné pendant 10 ans. J'ai eu la chance d'obtenir un congé de mobilité. On a créé ce type de congé dans les années 1990 et j'ai bénéficié de ce congé pour pouvoir me consacrer à de nouvelles études, en quelque sorte, pendant un an. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit à l'IPAC, qui est l'Institut de préparation à l'administration générale. Et j'ai passé plusieurs concours de l'administration. Je n'étais pas véritablement fixé au départ. Je voulais changer, mais je n'avais pas de but précis. En fait, le concours de conservateur s'est très bien passé. C'est celui dont j'ai obtenu les résultats en premier, et c'était des résultats très, très favorables. Donc je me suis dit, bon ben je me lance dans cette formation de conservateur, en me disant que c'était certainement une profession qui permettait d'avoir des postes extrêmement variés. Et ça m'intéressait. Et puis aussi une profession qui permettrait sans doute d'encadrer d'autres agents. C'est un peu aussi le type même de la fonction scientifique des cadres A, hein, d'encadrer des agents de bibliothèque, du moins dans la filière bibliothèque. Et c'était quelque chose qui me tentait bien. Et donc j'ai pu le mettre en application au cours de ma petite carrière de conservateur. Voilà.
Et donc oui, vous avez choisi ce métier finalement un petit peu comme ça, simplement dans un désir de changer
C'est-à-dire que personnellement, j'ai toujours été intéressé par les livres, mais j'avais pas conscience dès le début d'une voie vers les bibliothèques, parce que j'étais plutôt façonné enseignement, puisque dans ma famille, il y avait plusieurs enseignants, et voilà, mes parents souhaitaient que je passe l'école normale. Et après, j'ai passé d'autres concours qui m'ont permis d'enseigner dans le secondaire. C'était un petit peu comme ça que ça s'est fait. Mais plus tard, j'espérais changer. Bon, l'enseignement me plaisait, mais je voulais changer. 10 ans, c'était bien. Et je voulais voir autre chose. Et puis, voilà, pourquoi pas les bibliothèques et le métier de conservateur.
D'accord. Est-ce que vous vous souvenez un peu de quel était le contenu de l'enseignement lors de votre formation à l'ENSIB?
Alors, en fait, je m'en souviens pas forcément en détail, mais je peux vous dire un certain nombre de choses. Tout d'abord, j'ai fait partie de la première promotion nouvelle formule. C'est-à-dire à la création de l'ENSIB, ce qu'on a appelé le DCB1, qui donc permettait aux élèves de faire un cursus de 18 mois pour la première fois. Alors, je crois qu'on peut dire, sans être iconoclaste, disons que notre promotion a essuyé les plâtres de cette nouvelle organisation des études. En fait, ce qui frappait à l'époque l'ensemble des élèves, c'est que finalement, il y avait une démultiplication des modules. Trop de morcellement, finalement, dans la formation. Et vous voyez, il y avait je crois, autour d'une trentaine de modules. Et ça nous est vraiment apparu très vite comme quelque chose de trop morcelé et difficile, du coup, à suivre. Alors, j'ai quelques exemples. Je me souviens, par exemple, que certains modules étaient trop détaillés. L'informatique théorique, par exemple. Ça, c'était très, très détaillé. D'autres, enfin, moi, m'ont paru trop rapides. Par exemple, l'administration des bibliothèques ou la recherche bibliographique. Pour moi aussi, il y en a carrément qui me paraissaient inutiles. Par exemple, je crois que ce n'est plus le cas maintenant, il y avait un module catalogage. Mais vous imaginez, un module catalogage en 3 mois, on doit apprendre le catalogage quand on est, comme moi, totalement novice, qu'on n'est pas de la filière interne, c'est quelque chose d'impossible, enfin d'impossible. On survole et puis on oublie tout très vite. Voilà, donc c'est le souvenir majeur que j'en ai. Moi je dirais que ce qui m'a qui a compté beaucoup dans ma formation pour moi, c'est plus les stages professionnels, et particulièrement le stage long de 3 mois que j'ai eu la chance de faire à l'étranger, à Montréal, au Canada, dans le réseau des bibliothèques municipales. Donc ça a été très formateur, parce que j'ai pu confronter un peu ce que j'avais appris à l'ENSIB à l'expérience des bibliothécaires anglo-saxons, qui est quand même un peu différente, qui ont un grand pragmatisme, et je me suis beaucoup inspiré de cette initiation, si vous voulez. Je dirais encore, pour terminer, si vous voulez, que l'organisation des études à ce moment-là était totalement différente de celle de maintenant, et que on rentrait à l'école au mois de septembre, on en sortait au mois de mars. Le stage professionnel était très mal placé. C'est ça que je trouve, et pas que moi d'ailleurs. Il était en plein milieu de la formation et en plein été. Alors, ça avait deux handicaps majeurs. C'est que d'une part, il cassait un peu le rythme de la formation. On bachotait, entre guillemets, pendant plusieurs mois. Puis il y avait ce grand stage qui était quand même plutôt pratique et où on faisait appel vraiment à l'expérience et au savoir-faire concret. Et puis vous reveniez à l'école où on recommençait le bachotage. Et là, je dois dire que c'était dur, quoi. C'était vraiment un exercice difficile. Et le deuxième désavantage, c'est que le fait que le stage était en été était évidemment pas du tout favorable à l'accueil des professionnels en bibliothèque, puisque c'est une période où l'établissement est plus ou moins fermé, les gens sont en vacances, c'est pas motivant pour les gens qui nous accueillent. Donc ça n'allait pas du tout. Et ça, c'est une bonne chose que ça soit changé.
Oui. Et aviez-vous fait également un stage court, qu'on appelle maintenant le stage plaisir
De notre temps, il y avait un stage court, mais je ne me rappelle pas qu'on pouvait sortir du monde des bibliothèques. C'était aussi un stage en bibliothèque. Mm-hmm. Moi, je l'avais fait à la médiathèque de Villeurbanne. C'est une artothèque. Mm-hmm. Voilà. Et ça, c'était intéressant parce que justement, il y avait autre chose que des livres présentés. Des œuvres d'art, des peintures. C'était un autre état d'esprit. Voilà. Mm. Bon, ça, c'était une découverte.
Et juste pour votre stage long, donc à Montréal, vous avez eu une mission, j'imagine, à...
Oui.
Et alors,
c'était... Ah oui, c'était très, très intéressant. C'était très intéressant, et c'est ce qui a débouché sur le mémoire d'études, en fait. Donc, en fait, moi, je devais réfléchir au positionnement de la bibliothèque centrale par rapport à ce qu'on appelle aux États-Unis ou en Angleterre, enfin ou dans le monde anglo-saxon, les branches, c'est-à-dire les annexes, les bibliothèques annexes. Il faut vous dire que le réseau municipal de Montréal est un réseau très important. Donc outre la bibliothèque centrale, qui avait vocation de conserver plutôt des documents patrimoniaux, il y avait 23 branches, certaines spécialisées dans des documents audiovisuels et d'autres donc des bibliothèques un peu de quartier, si vous voulez. Donc, c'est un énorme réseau. Et puis, il y avait aussi, ça m'avait beaucoup intéressé, un centre technique chargé de préparer les livres, de les cataloguer, etc. C'était complètement concentré. Et après, les livres étaient envoyés directement sur place, dans les branches. Dans les branches, c'était surtout la médiation, le service au public qui était en application, si vous voulez. Il y avait un positionnement un peu difficile de la bibliothèque centrale à ce moment-là, et d'autant plus que il y avait aussi à voir la relation avec la Bibliothèque nationale du Québec. Et chacun était dans un bâtiment très étroit, voilà. Et donc on parlait déjà à l'époque d'une construction d'une nouvelle bibliothèque, d'une grande bibliothèque. Et c'est un peu des préconisations que je faisais dans mon mémoire d'études. Et à l'époque, mon responsable sur place, c'était Régent Savard, qui est quelqu'un de très connu dans les bibliothèques, au niveau du Québec. Et je sais, pour l'avoir rencontré après, qu'il il a fait partie de la commission de réflexion sur la création de la nouvelle bibliothèque du Québec. Et il a utilisé les préconisations que j'avais faites dans mon mémoire. Voilà, il me l'avait dit un jour quand je l'avais rencontré au Salon du Livre quelques années plus tard. Voilà.
Vous savez peut-être qu'aujourd'hui le mémoire d'études est complètement détaché du stage professionnel. Pensez-vous qu'il était plus intéressant de le lier à ce stage ?
Alors, je pense que ça doit être un exercice peut-être plus difficile pour les élèves, du fait qu'ils soient complètement détachés. Je pense qu'il y a deux conceptions, si vous voulez. Normalement, on devait à l'époque mêler à la fois la pratique, on était mis en situation de travailler, un peu comme tous les agents de la bibliothèque dans laquelle on se trouvait, et puis en même temps, on avait une partie plus théorique de réflexion sur le mémoire, préparation du mémoire par rapport à l'observation de la réalité. Donc c'est vrai que pour certains élèves, ça a peut-être été difficile parce qu'ils étaient très impliqués dans le travail pratique. Ils utilisaient beaucoup de leur temps dans le travail pratique de tous les jours et ils avaient moins de temps pour réfléchir et préparer leur mémoire. Moi, j'ai eu cette chance de ne pas être trop impliqué dans la pratique. J'ai pas eu beaucoup de journées en situation pratique. Mon stage a été beaucoup des consultations. J'ai rencontré énormément de responsables, énormément d'agents de tous les niveaux. Parce que dans le monde anglo-saxon, c'est très facile de dialoguer. Même un élève sortant de l'ENSI, bon, il est reçu par un directeur, par quelqu'un qui a de grandes responsabilités, et on dialogue. Il vous demande, vous, quelle est votre expérience. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Et bref, j'ai surtout eu cette chance de, à la fois d'observer, plus d'observation, si vous voulez, qui m'a permis de réaliser mon mémoire dans de très bonnes conditions. Je pense que pour d'autres collègues, ça a été plus difficile. Ça a des avantages de le dissocier, ça a aussi des inconvénients. Voilà, c'est difficile à dire, c'est un peu les circonstances dans lesquelles on se trouve.
D'accord. Mais alors, connaissez-vous l'enseignement actuel dispensé aux élèves conservateurs ?
Alors, en fait, je ne peux pas dire que je suis l'enseignement nouveau ENSI en détail. Hein. Ça serait quand même un peu exagéré. Mais vous savez qu'ici, il y a pas mal d'élèves de l'ENSIB qui chaque année viennent faire des stages, puisque c'est un grand établissement. Au niveau du département, on en reçoit régulièrement. Et donc, je n'ai pas manqué de discuter avec eux au fil du temps. Donc, ce qui m'a paru très net, c'est que, par exemple, le calendrier des études a très nettement changé. Et je trouve que c'est une bonne chose, vraiment. Je trouve que c'est beaucoup plus logique, notamment l'arrivée du grand stage professionnel en fin de cursus, en quelque sorte la mise en pratique après la formation théorique, ça c'est très bien. J'ai regardé, alors je me suis amusé quand même à regarder le site de l'ENSI, mais j'ai trouvé aussi que d'abord c'est plus ouvert, on présente très nettement comment s'organise la formation, et ça c'est une bonne chose. J'ai trouvé une bonne chose aussi l'idée de concevoir un tronc commun, d'abord, et puis des parcours optionnels nettement identifiés. Ça, je trouve que c'est très bien. Patrimoine, numérique, service au public. En quelque sorte, une spécialisation. Hein. C'est conçu comme ça, je pense. Donc ça me paraît très bien. Enfin, de l'extérieur. Hein. Évidemment, moi, je ne peux pas juger de l'intérieur. Voilà. Visiblement, j'ai constaté aussi que pas mal d'intitulés de modules ont changé. Je n'ai pas retrouvé, par exemple, le module de catalogage. Je ne sais pas s'il y en a encore.
C'est sûr que non, t'as plus le droit de prononcer le mot catalogage.
Ah, je ne sais pas si le mot doit être tabou, mais en tout cas, c'est une bonne chose qu'on ne le fasse plus dans ces conditions. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Maintenant, reste à savoir si les contenus eux-mêmes, la façon dont sont dispensés les contenus, conviennent aux élèves. Ça, là, je ne sais pas, je ne saurais vous le dire. Moi, je ne vois ça que d'un point de vue extérieur. Alors, j'ai lu aussi la page du site Contexte de la Réforme. Là, j'ai vu que l'environnement politique, culturel, documentaire, technique est en mouvement, qu'il y avait une formation nouvelle qui essayait de se mettre en place. Ça fait longtemps que l'ENSIB essaye de se rénover. Hein. Bon, il y a eu beaucoup de tentatives. En même temps, C'est vrai que l'ENSIB doit suivre la mutation du métier. C'est une banalité de dire que le métier de bibliothécaire est en pleine mutation. Quand on est à la Bibliothèque nationale de France, vous savez, on s'en rend compte pleinement. Nous, en tant que chef de service, on est vraiment confronté à cette évolution, notamment, je donne un exemple, ce n'est pas exclusif, mais notamment au niveau des cadres A, les chargés de collection, qui ne font plus justement que des acquisitions papier, à qui on a demandé beaucoup d'autres expertises. Des expertises autour de la préparation à la numérisation, la collecte du web, le repérage des sites. Voilà, tout ça, c'est une évolution du métier qui est très sensible et qui nécessite aussi que les élèves de l'ENSIB s'adaptent à cette nouvelle, identité, je dirais, du métier ou des agents qui sont confrontés à cette évolution, qu'on le veuille ou non. Donc, vous voyez, ces nouvelles facettes, la gestion du numérique, du DL Web, les services à distance, tout ça, c'est des choses qui sont déjà en route. Et l'ENSIB se doit de suivre cette évolution, sinon de l'anticiper. Et c'est là que c'est peut-être le plus difficile. Donc, je dirais que le conservateur, pour moi, aujourd'hui, reste un honnête homme, au sens du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il doit être un homme cultivé, sensible aux documents anciens, à leur préservation, mais aussi, il doit faire la part belle aux nouvelles technologies. Il doit aller de l'avant sur ce plan-là, aux nouvelles sources d'informations et au numérique. Tout ça, finalement, dans le but de faciliter la communication au public le plus large possible. Donc c'est un mouvement qui me semble inéluctable et que l'ENSIB doit prendre à bras le corps et que chacun d'entre nous, élève et agent dans l'activité, doit aussi prendre à bras le corps. Voilà, donc moi c'est ma conception de ce que devrait être l'enseignement de l'ENSIB.
Si on passe à des questions un peu plus personnelles, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous vivez votre métier, si vous êtes satisfait aujourd'hui d'avoir fait ce choix, et si vous referiez le même choix de carrière aujourd'hui ?
Alors, d'abord, je dois dire que j'ai quitté l'enseignement en toute satisfaction. J'avais passé une excellente période d'enseignant et j'ai fait un choix de changement. L'esprit positif, vous voyez. Je n'ai pas, c'était pas du tout pour fuir une activité, essayer d'en retrouver désespérément une autre. Non, ça s'est fait dans de très bonnes conditions. Et c'est déjà important, ça, cette transition positive. Et j'ai, je dois le dire, jamais regretté non plus d'avoir changé de métier et d'être devenu conservateur de bibliothèque, puisque, un peu comme je l'imaginais, ça m'a permis quand même... finalement, quand je retrace un peu mes années passées, de faire des expériences très diversifiées. Hein, voilà, ça c'est quelque chose qui est essentiel, je trouve, c'est la diversité, la marge de manœuvre qu'on peut avoir quand on est conservateur. Pour autant, je ne tombe pas dans l'angélisme. Hein. Et il faut quand même bien dire que ce changement, cette découverte sans cesse renouvelée, a été aussi source de difficultés. Hein. Rien n'est facile. Et la première difficulté, c'est qu'on le veuille ou non, c'est celui du passage de l'école ENSIB à la réalité. Je pense que aussi bon soit l'enseignement de l'ENSIB, jamais il ne pourra totalement préparer à ce que c'est que la réalité du métier. Il y a toujours un gap, il y a toujours une frontière à passer. Et voilà, donc ce gap est plus ou moins difficile selon, je pense, les tempéraments. Mais je crois que beaucoup de mes collègues l'ont perçu en disant parfois, bon ben... on n'est pas toujours bien préparé et il y a encore à apprendre beaucoup quand on arrive. Et je pense que c'est pas tant sur le plan technique, parce que ça, bien sûr, sur le plan technique, on a des choses à apprendre, mais on les découvre petit à petit et ça, c'est normal. Mais c'est aussi sur le sens de l'adaptabilité, je dirais. C'est savoir faire... preuve d'adaptation face à un cadre nouveau, à des situations plus complexes, et notamment sur le plan relationnel. C'est-à-dire que le métier se concrétise par le fait même que vous arrivez dans une équipe et que vous devez prendre en compte vos désirs à vous, bien sûr, votre volonté d'appliquer certaines choses que vous avez apprises, mais en même temps, de tenir compte de la réalité, de l'existant, de ce que sont les gens qui sont là en place. Et il faut arriver à trouver sa place entre ces deux logiques, je dirais. Donc ça c'est important, c'est pas facile, et ça demande une certaine modestie, sinon on risque d'aller dans le mur. Voilà, hein, je le dis très franchement. Il faut, en quelque sorte, quand on est surtout un cadre, comme un conservateur, hein, qui risque de l'être très vite, proposer sans imposer, je dirais, participer sans paraître omniprésent, savoir écouter, savoir adapter ses choix si besoin, et tout ce dosage subtil ne s'apprend pas vraiment à l'école. Il s'apprend dans la réalité. Alors, au sein de la BNF, par la taille même de l'établissement, de la diversité de ses missions, j'ai vraiment connu des moments très enrichissants. Parce qu'on est au contact de compétences très variées. Et si on prend le temps de bien écouter les autres, de bien essayer de voir leurs messages et de saisir ce qu'ils ont à vous apporter, ben c'est vraiment enrichissant. Donc je ne regrette pas du tout d'être à la BNF, au contraire. Et quant à l'avenir, eh bien, je dirais que j'essaye de rester optimiste. Vous savez qu'on est tous confrontés à des difficultés d'effectifs, puisqu'on est dans la RGPP, dans des budgets de plus en plus contraints. En même temps, les bibliothèques doivent s'inscrire dans une évolution, on en a parlé tout à l'heure, dans des nouveaux services à proposer. Il faut le voir plutôt comme un challenge, comme quelque chose qui est motivant, et faire preuve d'initiative, d'imagination. Donc, c'est vraiment un grand mouvement pour la suite. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.